journal des sciences.
Et on ouvre ce journal des sciences sur cette vaste étude américaine présentée le week-end dernier à l'ASCO, le congrès mondial sur le cancer qui se déroule à Chicago. Étude qui confirme l'intérêt d'un test dit de signature génomique, l'oncotype DX, dans le cancer du sein. Son utilisation systématique permettrait d'éviter la chimiothérapie dans 70% des cas.
Et les résultats de cette étude, lancée il y a plus de 10 ans maintenant, étaient extrêmement attendus, aussi bien outre-Atlantique qu'en France. En effet, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec en France 50 000 nouveaux cas par an. Et depuis les années 80-90, pour réduire le risque de récidive et de mortalité, beaucoup de patientes se voient proposer une chimiothérapie adjuvante juste après la chirurgie, aux effets secondaires extrêmement forts et parfois létaux, il faut le rappeler. Et ce, alors qu'une partie n'en a peut-être pas besoin. Pour identifier ces patientes-là, celles qui n'en ont pas besoin, une technique a été développée aux États-Unis, une technique de test dit donc de signature génomique. Et le plus utilisé, d'ores et déjà, dans le pays, il s'appelle Oncotype DX. Il permet d'analyser l'expression d'un panel de 21 gènes à partir d'un échantillon tumoral, donc d'une biopsie de la tumeur, et d'attribuer un score à cette tumeur. L'étude qui a été présentée ce week-end, baptisée TRAIL-X, a été menée sur 10 000 femmes âgées de 18 à 75 ans, atteintes d'une des formes de cancer les plus communes, c'est-à-dire HER négatif et sensible aux œstrogènes, à un stade précoce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ganglions encore touchés, et elle les a suivies pendant 9 ans. Cette étude conclut que les deux tiers d'entre elles n'ont pas besoin de chimiothérapie. C'est ce qu'explique Daniel Hayes, il est oncologue et responsable du programme de lutte contre le cancer du sein à l'Université de Michigan. Il est l'un des très nombreux co-auteurs de cette étude.
You get a recurrence score that could be anywhere from zero, which is very low and very good.
Oncotype DX nous permet d'obtenir un score qui va de 0, ce qui est très bon pour la patiente, jusqu'à 100. Assez vite, plusieurs études ont permis d'identifier deux groupes distincts. Ceux des femmes dont le score est bas, c'est-à-dire inférieur à 18, dont on est certain que la chimiothérapie ne leur apporte rien, et le groupe des femmes avec un score haut, 31 et plus, où les études ont prouvé que la chimiothérapie est nécessaire pour éviter une récidive. Mais cela nous laisse un vaste groupe, celui des femmes qui obtiennent un score intermédiaire entre 18 et 31, que nous préférions surtraiter en leur donnant une chimio. Mais nous ne savions pas si elles en avaient vraiment besoin. Or, la chimio est très toxique. En 2005, nous avons donc lancé cette grande étude randomisée avec plusieurs milliers de patientes. Les résultats que nous publions cette semaine montrent que vraisemblablement, si votre score est inférieur à 25, vous n'avez probablement pas besoin de chimiothérapie. C'est particulièrement vrai si vous êtes déjà ménopausée.
We feel that what we've really done is just raised the recurrence score cutoff.
Ce que nous avons fait avec cette étude, c'est que nous avons finalement prouvé qu'il convient de relever ce qu'on considère comme un score bas. Il passe de 18 à 25, et cela correspond en réalité à un nombre assez substantiel de femmes dont nous ne savions pas s'il fallait ou non leur donner une chimio. Aujourd'hui, nous pouvons leur dire que la chimio et sa toxicité n'est pas utile pour elles. Il y a néanmoins quelques exceptions qui apparaissent. Il semblerait en effet que pour les femmes plus jeunes ou en préménopause, le score bas doit être établi plutôt à 22, 23 qu'à 25. La limite entre le score où la chimio n'est pas nécessaire et celui où elle l'est semble intervenir plus tôt pour ce groupe de femmes.
Et cette étude confirme donc l'utilité de ce test qui est déjà utilisé depuis de nombreuses années aux États-Unis et elle va sans doute permettre de l'introduire plus massivement en France où certains oncologues tentent de minimiser la portée de cet article, Zoé.
Oui, alors pour comprendre ça, il faut comprendre qu'en fait la France ne s'est pas spécialement intéressée à ce type de test, donc de signature génomique. Elle a plutôt travaillé, et d'ailleurs avec pas mal de succès, sur plutôt des biomarqueurs uniques ou parfois combinés pour tenter d'évaluer l'utilité de la chimio et éviter donc d'y recourir. Il y a véritablement depuis plusieurs années en France, ce qu'on appelle une désescalade. Néanmoins, l'oncotype test fait l'objet d'un test en France depuis 2016 pour voir s'il convient ou non de généraliser son utilisation. Daniel Zarka est chirurgien cancérologue, cofondateur de l'Institut français du sein. Il espère que les résultats de cette étude, qui est, on peut le dire, méthodologiquement assez imparable, permettra de lever les dernières défiances en France à son égard.
Pour l'Europe et en particulier pour la France, les gens ne voulaient pas ou ne pouvaient pas se contenter des essais qui avaient été réalisés précédemment. Et donc, ils attendaient vraiment d'avoir cette étude randomisée avec plusieurs dizaines de milliers de patients pour pouvoir se prononcer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est une très grande hétérogénéité aujourd'hui des pratiques. Et il y avait un article dans le bulletin du cancer qui montrait que pour un certain nombre de cas en France, les décisions de chimiothérapie étaient très très diverses. Alors, il y en a qui vont utiliser un marqueur qu'on appelle le KI67, ils vont associer avec le taux de récepteur. Chacun va faire sa sauce. Ce ne sont pas des facteurs randomisés, hein, qui n'ont pas fait l'objet d'essais. Il va se passer avec le test qui est adopté et qu'il n'y a plus de discussion dans la mesure où on va juste regarder le résultat du test. Et ce résultat du test, compte tenu du design de l'essai, va nous donner la réponse sur l'intérêt d'une chimiothérapie. Et ce qu'on attend, nous, c'est d'avoir un remboursement du test par la Sécurité sociale. Il y avait une étude médico-économique qui prouvait que ces tests étaient cost-saving, c'est-à-dire qu'ils avaient économisé de l'argent. Le test coûte aux alentours de 1 850 €, mais la chimiothérapie coûte cher en direct. Et en indirect, tous les coûts sociaux, les arrêts de travail, les transports, et puis il y a les morbidités de la chimiothérapie. Si on regarde juste l'aspect médico-économique, c'est un test très intéressant pour la sécurité sociale.
En bref, toujours au Congrès mondial sur le cancer à Chicago, une nouvelle étude confirme la supériorité de l'immunothérapie sur la chimiothérapie dans le cancer du poumon.
La plupart des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancées, la forme la plus fréquente de cancer du poumon, pourront éviter une chimiothérapie au profit d'une immunothérapie avec le pembrolizumab, qui est commercialisé notamment par Keytruda ou les laboratoires Merck, un médicament qui s'administre par voie intraveineuse toutes les 3 semaines et déjà utilisé dans d'autres formes de cancer de la peau. Cette étude confirme un virage important déjà amorcé par plusieurs études dans le traitement de ce cancer du poumon. Puisqu'ici dans cette étude, les patients traités par immunothérapie ont non seulement vécu plus longtemps, 4 à 8 mois de plus que celle du groupe chimio, mais ces patients ont aussi été moins nombreux à présenter des effets secondaires graves, 18% contre 41%.
La police américaine résout une enquête grâce à une base de données génétiques et généalogiques privées.
Après 40 ans d'enquête, la police américaine a arrêté un homme qui est soupçonné d'être le tueur du Golden State, auteur de 12 meurtres, 50 viols, une centaine de vols aux États-Unis. Eh bien, pour l'identifier, la police a eu recours à GenMatch, un site internet privé qui compare l'ADN d'un échantillon à une base de données génétiques mise en ligne par des personnes qui se sont inscrites parce qu'elles veulent reconstruire leur arbre généalogique. Eh bien, la police l'a fait en créant un faux compte pour le compte du tueur. Elle a identifié sa famille et a donc pu le retrouver. C'est la première fois que la police américaine utilise des bases de données ADN non obtenues à partir de ressources médico-légales. Les membres du département de bioéthique du National Institute of Health ont publié cette semaine un avis appelant à répondre aux questions juridiques et de confidentialité qui sont soulevées par cette nouvelle pratique.
Deuxième sujet de la semaine de ce journal des sciences, la NASA a annoncé hier, lors d'une conférence de presse très attendue, que le rover Curiosity a découvert du méthane et des matières organiques sur Mars.
Et oui, dans cette conférence orchestrée avec beaucoup de suspense, comme toujours, la NASA a attiré l'attention sur 2 articles qui paraissent aujourd'hui dans la revue Science, tous deux basés sur les résultats de SAM, cet instrument embarqué sur le rover Curiosity qui est sur Mars depuis 2012. SAM a identifié dans des échantillons prélevés sur 2 sites distincts du cratère Gale la présence de plusieurs molécules organiques de substances volatiles qui rappellent les roches sédimentaires qu'on a trouvées sur Terre. L'autre information, c'est que ça me confirme la présence de méthane atmosphérique sur Mars. François Forget est planétologue, chercheur au CNRS. Lui a demandé si ces annonces étaient si surprenantes et game changer, comme dit la NASA. Il m'a répondu ce que vous allez entendre.
Alors oui et non. Pas tout à fait, parce que pour la découverte des molécules organiques, on s'y attendait un peu. Il y avait eu des premiers résultats obtenus par la même équipe, d'ailleurs à l'époque publiés avec en meneur de l'équipe une Française qui s'appelle Caroline Fraissinet, qui travaille au Latmos dans la région parisienne, et donc qui avait déjà annoncé la découverte de premières molécules organiques dans le même genre de roche. Mais cette fois-ci, c'est vrai que d'abord, ça a été annoncé avec toute la force médiatique de la NASA, et puis c'est une très très belle découverte de molécules assez complexes, et surtout bien préservées dans ces roches. On pense notamment grâce à la présence de soufre. Et pour ce qui concerne le méthane, là aussi, c'est la suite d'une longue enquête que mène l'équipe du rover Curiosity, qui avait déjà découvert en général un espèce de fond, si vous voulez, une très très faible valeur, en dessous d'une partie par milliard de molécules de méthane dans l'atmosphère de Mars. Donc c'est très très peu. Et ce que annonce cette découverte, c'est que ce petit bruit de fond a une variation saisonnière qui se répète chaque année et qui est assez étonnante et j'avoue qu'elle est un peu mystérieuse. Dans les deux cas, ça nous dit qu'il y a certainement des restes, certaines chimies, des molécules organiques sur cette planète, ce qui est une bonne chose, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, on ne le savait pas. Ça renforce la motivation pour aller chercher, par exemple, un peu plus profond en faisant un forage des restes de molécules organiques, qui peuvent être des molécules fossiles d'une ancienne vie. C'est notamment l'objectif de la mission du rover ExoMars 2020 de l'Agence spatiale européenne. Je peux vous dire que j'étais hier avec le responsable scientifique de la mission, il était très content, c'est extrêmement motivant de se dire que Curiosity a déjà réussi à trouver des choses et sûrement ExoMars pourra faire mieux.
En bref, le Muséum National d'Histoire Naturelle met en ligne aujourd'hui son portail de sciences participatives pour la biodiversité, portail baptisé Open.
Avec pour objectif de connecter, je cite, les observateurs bénévoles désireux de s'investir dans la préservation de la biodiversité aux observatoires de sciences participatives, et ils sont nombreux en France. Sur ce portail, donc, vous vous connectez, vous indiquez votre région, vos priorités, le changement climatique, les espèces en danger, les espèces envahissantes, et votre niveau de connaissance, puis Open vous sélectionne les programmes qui peuvent vous intéresser et sur lesquels vous allez être sollicité, et bien à vos claviers.
Voilà,
amis.
On vous met évidemment les liens sur le fil Twitter de l'émission, sur le compte de la méthode FC. Pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, une chercheuse française et ses collègues australiens ont réussi à démontrer que les abeilles sont capables de compter, en tout cas de comprendre la notion de zéro.
La notion de rien, et oui, alors on sait que le chemin a été très long pour nous, les hommes, pour qu'on on intègre ce concept de zéro. D'ailleurs, les enfants ont toujours du mal à comprendre que l'absence ou le rien a une place dans le continuum numérique, c'est pas du tout évident. D'autres espèces y arrivent, hein, les macaques rhésus. Alors, est-ce que les insectes le peuvent? Eh bien, cette étude nous explique que oui. Pour essayer de le comprendre, en tout cas de le prouver, ces chercheurs, ils ont appris aux abeilles à venir boire de l'eau sucrée sur un dispositif expérimental qui associe une plateforme à une image. En choisissant celles qui comportent le moins d'éléments, les insectes sont récompensés par de l'eau sucrée. Les mauvaises réponses les confrontent à une solution amère qui n'est pas très très agréable pour les abeilles. Et ensuite, les chercheurs leur ont proposé une image totalement vide, une autre avec plusieurs points. En choisissant l'image vide, je cite, comme étant celle qui comporte le moins d'éléments, les abeilles ont montré qu'elles étaient capables d'extrapoler en considérant que le 0 est inférieur à 5, 4, 3, 2 ou 1. Voilà, alors une information qui est sympathique et qui est d'autant plus étrange et triste que l'Union nationale de l'apiculture française organisait hier un rassemblement sur l'esplanade des Invalides, en s'alarmant sur une année record pour la mortalité des abeilles. On sait qu'aujourd'hui, 20 000 colonies d'abeilles, par exemple, sont mortes dans la région de Bretagne. C'est Waterloo, c'est morne pleine, c'est zéro, nous disaient hier les apiculteurs.